Je suis navré,
dit Jessamine en s'agenouillant à côté de Talmanès.
C'est au-delà de mes compétences. Je ne peux rien faire contre cette blessure.
Talmanès hocha la tête et remit en place le pansement. Comme si elle était gelée, la peau sur son flanc avait viré au noir. La femme de la famille le regarda, le front plissé. Cette blonde semblait très jeune, mais avec le pouvoir de l'unique, il fallait toujours se méfier.
Je m'étonne que tu puisses marcher, Seigneur.
Je doute que ça mérite encore le nom de marche,
marmonna Talmanès. Il se redressa et clopina en direction de ses hommes. Il tenait encore debout, plus ou moins, mais les vertiges devenaient de plus en plus fréquents. Gibbon discutait ferme avec Denel, qui désignait sa carte et gesticulait follement. Dans l'air, la fumée était si dense que plusieurs hommes avaient noué un mouchoir sur leur nez.
« Même les Trollocs évacuent ce quartier !» insista Gibbon. « Trop d'incendies !»« Les Trollocs se replient en direction du mur d'enceinte, et ce dans toute la ville. Leur intention est de laisser Kaemlyn brûler jusqu'au matin. Le seul secteur qui n'est pas en feu est celui où se trouve l'issue des chemins. Pour créer un pare-feu, ils ont démoli tous les bâtiments. »
« En utilisant le pouvoir de l'unique, »
dit Jessamine dans le dos de Talmanès.
« Je l'ai senti. Des sœurs noires. Je ne conseillerais pas d'aller dans cette direction. »
Jessamine était la dernière représentante de la famille, car sa compagne avait péri. Incapable d'ouvrir un portail, elle ne se révélait pas inutile pour autant. De ses yeux, Talmanès l'avait vu carboniser 6 Trollocs infiltrés derrière leur ligne. Cette escarmouche, il avait dû en être seulement témoin, car la douleur le terrassait. Depuis, Jessamine lui avait donné des herbes à mâcher. Si ça aggravait ses vertiges, ça atténuait la douleur. Il aurait juré que son corps, pris dans un étau géant, se faisait lentement écraser. Mais au moins, il tenait de nouveau sur ses jambes.
« Nous allons prendre le chemin le plus court, » dit-il. « Le quartier qui ne brûle pas est trop proche des dragons. Je refuse que l'engeance du démon découvre Aludra et ses armes. Si ce n'est pas déjà fait. »
Gibbon foudroya Talmanès du regard, mais c'était l'opération de la compagnie. Si l'Andorien y était bienvenu, il n'avait pas son mot à dire. Le groupe de Talmanès continua de s'enfoncer dans la ville truffée de périls. Même en connaissant la position de l'entrepôt d'Aludra, approximativement en tout cas, le rallye ne serait pas un jeu d'enfant. Beaucoup de grandes rues étaient bloquées par des débris, le feu ou l'ennemi. Du coup, il fallait passer par des dédales de ruelles si tortueux que même Gibbon, pourtant du cru, avait du mal à s'y repérer. D'autant plus qu'il fallait éviter les secteurs qui brûlaient au point de faire fondre les pavés. Contemplant les flammes jusqu'à ce que ses yeux se dessèchent, Talmanès entraîna ses hommes dans de nouveaux détours. Pas vite, certes, ils approchaient de l'entrepôt. Par deux fois, ils tombèrent sur des Trollocs en quête de citadins à tuer. Avec le soutien des arbalétriers, les Bras Rouges firent un massacre. Talmanès assista de loin au combat, car il ne se sentait plus en état de ferrailler. Sa blessure avait raison de lui. Mais pourquoi avait-il laissé son cheval en arrière? Une idée idiote, ça. Quoique, les Trollocs auraient fondu sur l'équidé.
Mes pensées commencent à tourner en rond.
Avec sa lame, Talmanès désigna une allée latérale. Des éclaireurs se précipitèrent, regardèrent à droite et à gauche, et firent signe que le chemin était libre.
En fait, je ne suis plus en état de penser. Encore quelques minutes et le néant réclamera son dû.
Avant, il voulait savoir que les dragons étaient en sécurité. C'était son devoir. Au sortir de l'allée, Talmanès déboucha dans une rue qui lui parut familière. Ils étaient vraiment près du but. D'un côté de cette artère, les bâtiments brûlaient. Ici, les statues faisaient penser à de pauvres hères piégés par les flammes. Sur le marbre blanc, des traînées noires se formaient. L'autre côté de la rue était intact et silencieux. Les ombres projetées par les statues y dansaient au gré des flammes, comme des ivrognes ravis de regarder brûler leurs ennemis. Dans l'air, la fumée devenait oppressante. Aux yeux de Talmanès, dont la raison vacillait, les ombres et les statues semblaient se déplacer telles des créatures maléfiques engagées dans un balai morbide. La beauté consumée par le mal, sa peau noircissant tandis que la vermine le dévorait de l'intérieur et dévastait son âme.
« Nous ne sommes plus loin !»
lança Talmanès. En titubant, il avança, passant au pas de course. Pas question de ralentir ses hommes.
« Si les flammes touchent l'entrepôt !»
Les bras rouges atteignirent un endroit où le sol était noir de suie. Ici, le feu s'était déchaîné, mais il avait cessé, non sans avoir réduit en cendres le grand entrepôt qui se dressait naguère sur ce site. Par endroits, on reconnaissait des poutres fumantes au milieu des cadavres de Trolloc. Les braves de Talmanès se réunirent autour de lui, tous muets de terreur. À part le crépitement des flammes omniprésents, pas un bruit ne troublait le silence. Talmanès sentit une sueur glacée ruisseler le long de ses joues.
« Nous arrivons trop tard, » souffla Melten. « Ils ont emporté les armes, pas vrai? Si les dragons avaient explosé, nous aurions entendu le boucan. Les créatures de ténèbres sont venues. Elles ont pris les armes et elles ont brûlé l'entrepôt. »
Autour de leur chef, des bras rouges exténués tombèrent à genoux.
« Désolé, Matt. On a essayé, et... »
Un vacarme pire que le tonnerre retentit soudain dans toute la ville. Talmanès en trembla jusque dans la moelle de ses os, et ses hommes levèrent les yeux.
« Lumière !» s'écria Gibbon. « L'engeance du démon utilise les dragons ?»«
Peut-être pas !» fit Talmanès.
Ses forces lui revenant, il repartit au pas de course, entouré de ses braves. Chaque foulée lui déchirait le flanc. Pourtant, il descendit la rue aux statues, les flammes sur sa droite. Boum ! À bien y réfléchir, ces explosions ne semblaient pas assez fortes pour être des tirs de dragon. Une Aes Sedai ? Pouvait-on espérer un tel miracle ? Ayant repéré l'origine des sons, Jessamine courait dans cette direction, l'ourlet de sa jupe relevée. Les hommes la suivirent et, à l'intersection de deux rues, pas très loin de l'entrepôt, déboulèrent sur les arrières d'une bande de Trollocs. Talmanès beugla avec ce qui lui restait de voix et leva son épée en la tenant à deux mains. Désormais, le feu de la mort se déversait dans tout son corps, y compris dans ses doigts. À croire qu'il était devenu une des statues condamnées à brûler avec la ville. Avant même qu'un Trolloc s'avise qu'il était là, Talmanès le décapita, puis il fondit sur le suivant. Non, celui-là n'était pas un Trolloc. Avec une étrange grâce, la créature tourna vers le militaire son visage sans yeux. Les pans de son manteau, remarqua Talmanès, ne bougeaient pas d'un pouce. Le militaire éclata de rire.
« Pourquoi pas, après tout ?»
Et dire que ces hommes l'accusaient de ne pas avoir le sens de l'humour. Exécutant des fleurs de pommier dans le vent, le militaire frappa de toutes ses forces, avec une fureur égale à celle du feu qui le tuait de l'intérieur. À l'évidence, le Myrdral jouait sur du velours. Même en pleine forme, Talmanès aurait eu besoin d'aide pour l'affronter. Passant d'une figure d'escrime à une autre, le blafard virevoltait comme un spectre. Presque détendu, il abattit sa lame, comme si une simple chiquenaude allait suffire. La pointe entailla la joue de Talmanès sur toute sa longueur. Toujours hilar, le moribond dévia sa lame avec la sienne, une réaction qui stupéfia le blafard. Les hommes, en principe, ne devaient pas se comporter ainsi. À la moindre égratignure d'une lame de Takandar, ils étaient censés tituber, terrorisés de savoir que leur dernière heure avait sonné.
« J'ai déjà goûté à une de vos fichues lames, espèce de fils de chèvre !»
Fou furieux, Talmanès attaqua sans relâche. Il osa même un forgeron qui martèle la lame. Une figure inélégante, mais qui convenait très bien à son humeur. Sous ce déluge de coups, le Myrdral tituba. Très lentement, Talmanès ramena sa lame en arrière, sur le côté et, au niveau du coude, trancha net le bras blanchâtre de son adversaire. La moitié de membres vola dans les airs, et l'épée empoisonnée s'échappa des doigts saisis de spasmes. Tournant sur lui-même pour prendre de l'élan, Talmanès frappa encore, et décolla la tête du blafard de ses épaules. Alors qu'un sang noir jaillissait vers le ciel, le monstre s'écroula, sa main intacte se tendant vers le moignon ensanglanté de son autre bras. Talmanès se campa devant son adversaire vaincu. Bizarrement, son épée lui parut peser une tonne. La lâchant, il entendit cliqueter quand elle atterrit sur les pavés. Alors qu'il basculait lui-même en avant, une main le retint par derrière.
« Par la lumière !»
s'écria Melten.
« Tu en as tué un autre ?»« J'ai trouvé le secret pour leur faire la peau. Il suffit d'être déjà mort. »
Sous le regard perplexe de Melten, Talmanès ricana sombrement. Autour d'eux, des Trollocs s'écroulaient par dizaines, foudroyés par la mort de leur Myrdral. Presque tous blessés, les bras rouges se massèrent autour de leur chef, les survivants en tout cas. En leur état, cette bande de Trolloc aurait pu les exterminer. Melten ramassa l'épée de Talmanès et nettoya la lame. S'avisant qu'il ne tenait plus debout, le second de Mat rengaina l'arme et accepta la lance d'un trolloque que lui tendait un de ses soldats.
« Au fond de la rue !»
cria une voix distante.
« Qui que vous soyez, merci !»
Talmanès se mit en chemin, Filger et Mar le précédant, sans qu'il ait eu besoin de le leur ordonner. La rue étant obscure et jonchée de charognes de trolloques, Talmanès eut besoin d'un moment avant d'apercevoir la personne qui s'était adressée à lui. Au milieu de la rue, on avait érigé une barricade. Des gens se tenaient derrière, y compris un type qui tenait une torche. Non, pas un type, mais une femme aux cheveux tressés en robe marron ordinaire et tablier blanc. Aloudra.
« Des soldats de Cotton !»
lâcha-t-elle, caustique.
« Vous en avez mis du temps pour nous rejoindre !»
De l'autre main, l'illuminatrice tenait un cylindre de cuir pansu plus gros que le poing d'un homme et équipé d'une mèche noire très courte. Ces objets, se souvint Talmanès, explosaient après qu'on les eut embrasés et lancés. La compagnie y avait déjà eu recours, les propulsant avec des frondes. Moins dévastatrices que les dragons, ces armes restaient dangereuses.
« Aloudra, tu as les dragons ? Je t'en prie, dis-moi que oui !»
Sans répondre, l'illuminatrice fit signe à trois de ses compagnons d'écarter une partie de la barricade, afin de laisser passer Talmanès et ses braves. Derrière la fortification improvisée, des centaines de citadins, voire des milliers, se massaient dans la rue. En avançant, Talmanès vit un spectacle fabuleux. Une centaine de dragons, entourés par des hommes et des femmes de Kemlin. Les cylindres de bronze étaient montés sur des roues et un cadre, en principe tiré par deux chevaux. Tout compte fait, ces armes étaient très mobiles. De plus, les roues pouvaient être ancrées dans le sol pour gérer le recul. Du coup, tirer devenait possible dès qu'on avait détaché les chevaux. Dans la rue, il y avait assez de gens pour faire le travail des équidés et mettre les armes en batterie.
« Tu as cru que je les abandonnerais ?»
demanda Aloudra.
« Ces gens-là ne sont pas capables de servir mes dragons. Mais pour les tirer, il suffit d'avoir deux bras et deux jambes. »«
Nous devons sortir ces armes de là !» dit Talmanès.
Sans blague, tu viens d'avoir une révélation? Que penses-tu que je tentais de faire? Mais qu'y a-t-il avec ton visage?
Un jour, j'ai mangé un fromage trop dur et je me suis coupé avec.
Aloudra regarda Talmanès, perplexe.
Je devrais sourire quand je plaisante,
pensa-t-il dans son brouillard en s'appuyant à la barricade.
Peut-être que les gens comprendraient.
Oui, mais ça soulevait une question cruciale. Voulait-il que les autres comprennent ses blagues? Souvent, c'était beaucoup plus amusant quand il ne captait rien. Et sourire semblait si vulgaire. Où était la subtilité là-dedans? En outre, lumière, il avait vraiment du mal à se concentrer. Plissant les yeux, il eut de l'inquiétude dans ceux d'Aloudra.
« Quoi, mon visage ? »
dit-il en portant une main à sa joue. « Le myrdraal, oui, une blessure. »«
Une égratignure. »«
Et les veines ?»«
Les veines ?»
répéta Talmanès. Regardant sa main, il vit que des tentacules noirs, comme du lierre qui aurait poussé sous sa peau, s'enroulaient autour de ses poignets et progressaient vers ses doigts. Et il devenait plus sombre à chaque seconde.
« Oh, ça ! J'agonise, manque de chance. C'est terriblement tragique, non ? Tu n'aurais pas un peu de gnôle par hasard ?»«
Je...
Seigneur !»
appela une voix. Talmanès scia, puis trouva la force de se retourner, en s'appuyant à sa lance.
« Oui, Filger.
Des trolloques, seigneur. Une horde. Ils se massent face à nous.
Magnifique. Il faut mettre la table. J'espère que nous aurons assez de couverts. Je savais bien qu'il fallait envoyer les domestiques chercher les 5700 jeux qu'il nous manque.
Tu te sens bien ?
Demanda Aloudra.
Par le sang et les cendres, femme. J'ai l'air d'un type au sommet de sa forme. Gibbon, on nous coupe la retraite. À quelle distance sommes-nous de la porte de l'Est ?
Une demi-heure de marche environ. Et il faudra descendre le versant de la colline.
Alors en route ! Prends les éclaireurs, et assure-toi que la voie est libre. Denel, vérifie l'aptitude de ces citadins à tracter les dragons, et préparez-vous à les utiliser.
Talmanès,
dit Aloudra.
Il nous reste très peu de poudre, et deux, nous aurons besoin des réserves de berlone. Jusque-là, tout ce que je pourrai fournir, ce sera quelques tirs par dragon.
Seigneur,
intervint Denel.
Les dragons ne sont pas faits pour tenir un front seul. Ils ont besoin de soutien pour empêcher l'ennemi de trop approcher et de les détruire. Ces armes, nous pourrons les utiliser, mais sans fantassins, ce ne sera pas pendant longtemps.
C'est pour ça qu'on va courir,
fit Talmanès. Il se retourna, esquissa un pas et faillit s'étaler.
Et je crois que... Eh bien,
que j'aurai besoin d'un cheval. »
Moghedien prit pied sur la plateforme de pierre qui flottait au milieu d'une vaste étendue d'eau. Bleue et vitreuse, cette onde frémissait sous la brise, mais on ne distinguait pas de vagues, et aucune côte n'était en vue. Les mains croisées dans le dos, Moridine se tenait au bord de la plateforme. Devant lui, la mer brûlait. Pas une once de fumée n'en montait, mais on sentait la chaleur et l'eau autour de la plateforme produisait de la vapeur en sifflant. Un cercle de pierre au milieu d'un océan infini, de l'eau en feu. Dans ses fantaisies oniriques, Moridine avait toujours aimé créer des configurations impossibles.
« Assise !»
ordonna-t-il sans se retourner. Moghedien obéit, se laissant tomber sur un des quatre sièges qui venaient d'apparaître au centre de la plateforme. Dans le ciel bleu limpide, le soleil en était aux trois quarts de la course vers son zénith. Depuis quand les lunes avaient-elles plus vu le soleil en Telaran Riod? Ces derniers temps, la tempête noire omniprésente obscurcissait tout. Cela dit, ce n'était pas totalement Telaran Riod, ni le rêve de Moridine d'ailleurs. Il s'agissait, d'un mélange des deux. Comme une sorte d'appentis adossé au monde des rêves. Une bulle où fusionnaient deux réalités. Moghedien portait une robe noire et or. De la dentelle, sur les manches, rappelait une toile d'araignée, mais vaguement. Il ne fallait jamais insister trop lourdement sur un thème. Une fois assise, l'élu tenta de présenter l'image même de la confiance et de la maîtrise de soi. Naguère, ça lui était naturel. Désormais, ces deux qualités lui échappaient, comme quand on tentait de saisir au vol des graines de pissenlit, si légères qu'on ne pouvait jamais refermer la main dessus. Furieuse contre elle-même, Moghedien serra les dents. Bon sang, elle était une des élues. Devant elle, des rois avaient éclaté en sanglots, tandis que des armées tremblaient de peur. Son nom, des générations de mères l'avaient utilisé pour terroriser leurs rejetons. Et maintenant, portant une main à son cou, elle y trouva son pendentif. Elle savait qu'il y serait, mais le toucher la rassurait et la calmait.
« Ne t'habitue pas trop à l'avoir, » dit Moridine.
Le vent lui soufflait au visage, faisant onduler l'océan immaculé. Moghedien crut entendre des cris charriés par cette brise.
« Tu n'es pas totalement pardonné, Moghedien. Te voilà en probation, plutôt. » À ton prochain échec, je donnerai peut-être le piège mental à Demandred. »
Moghedien haussa les épaules.
Mortellement ennuyé, il le jetterait au loin. Demandred ne veut qu'une chose, Altar. Tout ce qui ne le conduit pas à sa cible lui semble sans intérêt.
Tu le sous-estimes, fit Moridine. Le grand seigneur est content de lui, très content, mais de toi, en revanche. »
Moghedien se recroquevilla sur son siège, de nouveau soumise à la torture. Une douleur telle que peu d'êtres en ce monde en avaient connue, bien au-delà de ce qu'un corps aurait dû supporter. Tenant le court souverain, elle s'unit au Saïdar, ce qui la soulagea un peu. Avant, canaliser le pouvoir à proximité de son court souverain était un calvaire. Depuis qu'elle le portait et non Moridine, ce n'était plus pareil.
« Ce n'est pas simplement un pendentif, » se redit-elle sans lâcher le bijou. « C'est mon âme. »
Son âme si obscure. Comment aurait-elle pu imaginer qu'elle serait un jour soumise à un tel artefact? N'était-elle pas l'araignée, celle qui se montrait prudente en tout? Elle leva son autre main et la posa sur celle qui serrait le court souverain. S'il tombait, que se passerait-il? Et si quelqu'un le volait? Non, elle ne le perdrait pas. Elle ne pouvait pas le perdre.
« C'est donc ce que je suis devenue, »
pensa-t-elle, révulsée.
« Je dois me ressaisir, d'une façon ou d'une autre. »
Elle se força à ne plus penser au piège mental. L'ultime bataille était commencée. Déjà, des trolloques déferlaient sur les terres du Sud. Une nouvelle guerre de ténèbres. N'était qu'elle était la seule, avec les autres élus, à connaître les secrets les mieux enfouis du pouvoir de l'unique. Ceux qu'elle n'avait pas été contrainte de révéler à ces horribles femmes.
« Non, ne pense pas à ça. »
La douleur, la torture, l'échec. Dans la guerre actuelle, il n'affrontait pas les 100 compagnons, Donc, pas d'Aes Sedai bénéficiant de siècles de compétences et d'expérience. Elle montrerait sa valeur, et toutes ses erreurs passées lui seraient pardonnées. Moridin continuait à contempler les impossibles flammes. Les seuls sons ici étaient ceux du feu et des eaux qui bouillonnaient. Tôt ou tard, Moridin finirait bien par lui révéler pourquoi il l'avait convoqué, pas vrai? Ces derniers temps, il se comportait de plus en plus bizarrement, comme si sa folie était revenue. Jadis, l'homme appelé Moridin, ou Ishamael, ou encore Elan Morin Tedronai, aurait été ravi de contrôler un court souverain lui permettant de martyriser une rivale. Sans cesse, il aurait inventé des punitions, gardant Mogedien sur des charbons ardents. Au début, ça s'était bien passé ainsi. Mais très vite, ça ne l'avait plus intéressé. De plus en plus souvent, il restait seul à contempler les flammes et à broyer du noir. Du coup, les punitions qu'il avait infligées à Mogedien et à Sindane s'étaient révélées routinières. Quand il était dans cet état d'esprit, Mogedien trouvait Moridin encore plus dangereux. Un portail apparut d'un côté de la plateforme.
« Devons-nous vraiment faire ça chaque jour, Moridin ?»
Sanki demande Dredd en traversant le passage pour entrer dans le monde des rêves. Grand et beau, les cheveux noirs et le nez proéminent, il gratifia Mogedien d'un bref regard, remarqua le piège mental autour de son cou et continua.
« J'ai des choses importantes en cours et tu m'interromps. « Tu dois rencontrer certaines personnes, demande Dredd,
dit Moridin.
« Sauf si le grand seigneur t'a nommé Naiblis sans me prévenir. » Tu dois faire ce que je te dis. Tes distractions attendront. »
Demandred se rembrunit, mais il n'insista pas. Laissant le portail se refermer, il se campa au bord de la plateforme et contempla la mer. Soudain, il plissa le front. Qui avait-il dans l'eau? Mogadien n'avait pas remarqué, et elle se sentit stupide. Qu'était devenue sa légendaire prudence? Demandred approcha d'un siège à côté d'elle, mais il ne s'assit pas. Debout, il étudia le dos de Moridin. Que faisait donc Demandred de si imprudent? Depuis qu'elle était liée au piège mental, Mogedien accomplissait toutes les volontés du Naiblis. Mais elle n'avait rien découvert sur Demandred. L'élu frissonna en songeant au mois passé sous le joug de Moridin.
Je me vengerai.
Tu laisses Mogedien en liberté, constata Demandred. Qu'en est-il de cette... Sindane? Son sort ne te regarde pas.
Mogedien avait bien sûr remarqué que Moridin portait toujours le court souverain de Sindane. Sindane. Dans l'ancienne langue, ce nom signifiait « dernière chance ». Mais la vraie nature de cette femme comptait parmi les secrets que l'araignée avait découverts. Moridin, en personne, avait sauvé l'Anfear de Sindol, l'arrachant aux griffes des créatures qui se gorgeaient de son aptitude à canaliser le pouvoir. Afin de la secourir mais aussi de la punir, Moridin l'avait tuée. Ainsi, le grand seigneur avait pu se réapproprier son âme et la transférer dans un autre corps. Une méthode brutale mais très efficace. Le genre de solution que le grand seigneur privilégiait. Moridin étant concentré sur les flammes et Demandred sur le Naiblis, Mogadien saisit l'occasion de se lever et d'avancer jusqu'au bord de la plateforme. Autour, l'eau était parfaitement limpide. Laissant voir les gens qui y flottaient, les jambes liées à quelque chose dont les profondeurs et les bras attachés dans le dos. Des corps qui dérivaient comme du varech. Il y en avait des milliers. Tous levaient au ciel des yeux ronds de terreur. Piégé dans une noyade sans fin, il n'était pas mort, n'aurait pas le droit de crier, mais chercherait pour l'éternité à inspirer de l'air alors qu'il n'aurait que de l'eau. Sous les yeux de Mogedien, une silhouette sombre jaillit des fonds marins, s'empara d'un des damnés et l'entraîna avec elle. Du sang colora l'eau, ce qui augmenta l'angoisse et la frénésie des autres suppliciés. Mogedien en sourit d'aise. Voir souffrir quelqu'un d'autre qu'elle lui mettait du baume au cœur. Ces gens n'étaient peut-être pas réels, mais il pouvait aussi s'agir de personnes qui avaient mal servi le grand seigneur. Un autre portail s'ouvrit sur un côté de la plateforme, et une femme inconnue en sortit. Dotée de traits hautement déplaisants, cette créature arborait un nez crochu et en même temps bulbeux, et des yeux pâles qui louchaient atrocement. Très bien coupée, sa jolie robe de soie jaune mettait en valeur sa repoussante laideur. Mogedien ricana et retourna s'asseoir. Pourquoi Moridin acceptait-il qu'une inconnue assiste à une de leurs réunions? Cette femme était capable de canaliser. Donc, il devait s'agir d'une de ces idiotes inutiles qui se faisaient appeler Aes Sedai dans cet âge.
« Possible, » pensa Moghedien, « mais elle est très puissante. »
Comment avait-elle pu rater, parmi les sœurs, une femme si redoutable? Ses agents avaient repéré au premier coup d'œil Nineveh, cette pitoyable gamine, et laissé passer cette vieille peau?
« C'est la personne que tu veux nous faire rencontrer ?»
lâcha Demandred avec une moue méprisante.
« Non, »
répondit distraitement Moridin.
« Et Salam, tu la connais déjà. »
Et Salam, sans pitié dans l'ancienne langue. La harpie soutint le regard de Moghedien, qui trouva quelque chose de familier dans sa façon de se tenir.
« J'ai du pain sur la planche, Moridin, »
dit la femme.
« J'espère que... »
Moghedien sursauta. Le timbre de cette vieille.
« Ne me parle pas ainsi !»
lâcha Moridin sans se retourner ni hausser la voix.
« Ne te le permets avec aucun de nous. À cette heure, même Moghedien est plus en grâce que toi. »«
Grindal ?»
demanda Moghedien, les sangs glacés.
« N'utilise pas ce nom !»
fit Moridin en se retournant. Les os brûlèrent de plus belle.
« Elle en a été dépouillée. »
Grindal, non, et Salam, s'assit sans accorder un regard de plus à Moghedien. Oui, sa silhouette et sa gestuelle concordaient. C'était bien elle. Moghedien en eut l'âme toute réjouie. Grindal avait toujours utilisé sa superbe apparence comme une arme. Eh bien là, c'était une arme répulsive. Quel juste retour des choses. Dans cette enveloppe charnelle, Grindal devait littéralement se tordre de douleur et de rage. Qu'avait-elle donc fait pour mériter une telle punition? La grandeur de Grindal, son autorité et tous les mythes qui couraient à son sujet étaient liés à sa beauté. Qu'en restait-il à présent? Allait-elle devoir se mettre en quête de laidrons pour reconstituer sa collection de chiots? Des êtres contrefaits à la hauteur de sa hideur? Cette fois, Moghedien s'autorisa à rire. Entre ses dents, mais Grindal l'entendit. Et lui coula un regard qui aurait pu mettre le feu à la moitié d'un océan. Se sentant bien plus confiante désormais, Moghedien ne se troubla pas. Du coup, elle résista à l'envie de passer les doigts sur son court sauvras.
« Fais ce qui te chante, Grindal. Nous sommes sur un pied d'égalité désormais. À la fin de cette course, on verra laquelle finira devant l'autre. »
Le vent gagnant en intensité, des vagues troublèrent l'onde, mais la plateforme resta en sécurité. Moridin laissa mourir son feu, et des vagues ourlèrent l'onde. Sous l'écume, Moghedien distingua des corps, à peine plus que des ombres, mais c'était bien ça. Des cadavres, évidemment, mais aussi des vivants qui, libérés de leurs chaînes, tentaient de remonter à la surface. Hélas, quand ils y parvenaient, une force les ramenait sous l'eau.
« Nous sommes peu nombreux, » dit Moridin. « Nous quatre, plus celle qui est le plus punie, c'est tout ce qui reste. Par définition, nous sommes donc les plus forts. »
« Certains d'entre nous, » songea Moghedien. « Un des nôtres a été tué par Altor, et pour le ramener, il a fallu une intervention du Grand Seigneur. »
Pourquoi Moridin n'avait-il jamais été puni pour cet échec? Eh bien, quand il s'agissait du Grand Seigneur, mieux valait ne pas trop attendre d'équité.
« Fort, mais pas assez nombreux. »
Sur un geste de Moridin, une arche de pierre apparut sur le côté de la plateforme. Pas un portail, simplement une sorte de porte. Dans son rêve, le Naeblis pouvait tout contrôler. La porte s'ouvrit et un homme la franchit, prenant pied sur la plateforme. Les cheveux noirs, grands et beaux, cet inconnu avait tous les traits typiques des natifs du Saldaea. Un nez très légèrement crochu et des yeux inclinés. Moghedien l'identifia très vite.
« Le chef de ces oisillons d'Aes Sedai masculin ?
Je sais qui tu es, Mazrim.
« Ce nom est obsolète, »
coupa Moridin.
« Comme ceux que nous donnaient les hommes avant que nous devenions des élus. Et comme ceux que nous étions jusqu'à ce jour-là. À partir de cet instant, cet homme s'appelle Emael. Et il fait partie des élus. »«
Un élu, ce gamin ?»
s'étrangla Essalam.
« Il... »
Elle n'alla pas plus loin. Débattre de qui était ou non un élu n'entrait pas dans leurs prérogatives. Ils avaient le droit de se quereller, voire de comploter les uns contre les autres en se montrant prudents. Mais contester les décisions du Grand Seigneur leur était radicalement interdit. Et Salam tint sa langue. Moredine n'aurait pas qualifié cet homme d'élu si le grand seigneur n'en avait pas décidé ainsi. Donc, il n'y avait rien à discuter. Pourtant, Mogadienne frissonna. Taïm, enfin, Emmaël, était réputé être fort, peut-être autant que les autres élus. Mais élever ainsi un homme de cet âge marqué par une ignorance généralisée, songer que Emmaël serait considéré comme son égal exaspérait Mogadienne. «
Je vois des doutes dans vos yeux à tous les trois, » dit Moridine, « même si une seule a été assez folle pour en parler à voix haute. Emmaël a mérité sa récompense. Trop d'entre nous ont voulu affronter Altor quand on pouvait le croire faible. Emmaël, lui, a gagné la confiance de Loustérine, puis il s'est chargé de la formation de ses armes. En d'autres termes, il a produit une nouvelle génération de seigneurs de la terreur, prêts à servir la cause du grand seigneur. Vous trois, depuis que vous êtes libres, de quelle réalisation vous vantez-vous ?
Tu connaîtras un jour les fruits que j'ai récoltés, Moridine, dit à voix basse Demandred, et tu verras quelle multitude ils forment. Simplement, n'oublie pas mon exigence. C'est moi qui affronterai Altor sur le champ de bataille. Son sang m'appartient et à personne d'autre. Demandred soutint le regard des trois autres élus, et enfin celui de Emmaël. Dans ses yeux, il lui sembla voir quelque chose de familier. Ils s'étaient déjà rencontrés. « Avec celui-là, » pensa Mogadienne, « tu seras en compétition, Demandred. Altor, il le veut au moins autant que toi. » Ces derniers temps, Demandred avait changé. Naguère, il se serait fichu de qui tuerait Loustérine, pourvu qu'il meure. Pourquoi insistait-il pour l'abattre de sa main ?«
Mogadienne, » dit Moridine, « pour la guerre à venir, Demandred a des plans, et tu l'assisteras. »
L'assister, je... Vas-tu retomber si vite dans tes erreurs, femme ?
Demanda Moridine d'un ton suave. Tu feras ce qu'on te dit.
Demandred veut que tu te charges d'une des armées qui aurait besoin d'un commandement adapté. Un seul mot pour te plaindre, et tu découvriras que ce que tu prenais jusqu'ici pour de la souffrance était une esquisse de la véritable douleur.
Mogadienne porta la main au coursouvrat pendu à son cou, puis elle croisa le regard de Moridine et se sentit humble et impuissante.
« Je te hais, » pensa-t-elle, « m'humilier ainsi devant les autres. »
« Les derniers jours sont proches, » dit Moridine en tournant le dos à ses interlocuteurs. « Durant ces heures, vous devrez mériter vos récompenses finales. Si vous avez des plans en cours, réalisez-les. Oui, jouez toutes vos cartes, car nous voilà arrivés à la fin. »
Allongé sur le dos, Talmanès sondait le ciel d'un noir d'encre où les nuages reflétaient les lumières d'une cité agonisante. Quelque chose clochait. D'habitude, la lumière venait d'en haut, non ? Après être parti pour la porte est, Talmanès était tombé de cheval. De ça, il s'en souvenait, en tout cas la plupart du temps. Avec la douleur, réfléchir devenait difficile. Et les gens autour de lui se criaient des choses qu'il ne comprenait pas toujours.
« J'aurais dû charrier davantage Matt, » pensa-t-il avec l'ombre d'un sourire. « Quel moment mal choisi pour proférer une chose pareille. Mais il faut que je trouve les dragons, à moins que... on ne les aurait pas déjà trouvés par hasard. »
« Je le répète, ces fichues armes ne fonctionnent pas ainsi !»
cria soudain Denel.
Ce ne sont pas des maudites Aes Sedai montées sur roues. Impossible de générer un barrage de feu. En revanche, on peut expédier des projectiles sur les Trollocs.
Ces œufs explosent,
insista Gibbon.
On pourrait utiliser le surplus, comme je dis.
Talmanès ferma les yeux.
Les œufs explosent, oui,
concéda Denel.
Mais d'abord, il faut les propulser dans les airs. Aligner les canons et laisser les Trollocs fondre dessus ne donnera pas de bons résultats.
Une main secoua soudain Talmanès par l'épaule.
« Seigneur, » dit Melten,
« en finir maintenant n'aurait rien de déshonorant. Je vois à quel point tu souffres. N'est-il pas temps que les bras d'une mère se referment sur toi pour te protéger ?»
Entendant le bruit d'une épée qu'on dégaine, Talmanès se prépara. Puis il s'avisa qu'il n'avait absolument aucune envie de mourir. Ouvrant les yeux, il leva une main à l'intention de Melten, qui se pétrifia. Debout à côté du soldat, les bras croisés, Jessamine semblait très inquiète.
« Aide-moi à me relever, »
dit Talmanès. Melten hésita, puis obéit.
« Tu ne devrais pas être debout, »
souffla Jessamine.
« C'est toujours mieux que d'être couvert d'honneur et décapité, »
fit Talmanès entre ses dents serrées pour tenter de bloquer la douleur. Ce qu'il voyait, c'était bien sa main. On eût plutôt dit un morceau de charbon tant elle était noire.
« Où en sommes-nous ? »
« Nous sommes coincés, Seigneur, »
annonça Melten, l'air sinistre. À l'évidence, il les pensait tous perdus. Denel et Gibbon se querellent au sujet d'une ultime utilisation des dragons. Aludra, elle, trie les charges explosives. Une fois debout, Talmanès était appuyé à Melten. Devant lui, 2000 personnes se massaient sur la grande place de Kemlin. On eût dit des voyageurs perdus dans des terres sauvages par une nuit glaciale et cherchant à partager leur chaleur corporelle. Denel et Gibbon avaient disposé les dragons en un demi-cercle visant le centre de la ville. Derrière, les citadins attendaient la fin. Les bras rouges se consacraient en grande partie à servir les armes d'Aludra. Pour chacune, il fallait 3 hommes, mais tous, dans la compagnie, avaient eu l'occasion de s'entraîner. Si les bâtiments environnants étaient en feu, la lueur des flammes se comportait bizarrement. Pourquoi n'atteignait-elle pas les rues, qui semblaient vraiment trop sombres, comme si on les avait peintes? À croire que... Talmanès battit des paupières pour chasser les larmes de douleur qui lui brouillaient la vue. Oui, maintenant il comprenait. Les rues grouillaient de trolloques qui avançaient vers les dragons pointés sur eux. Pour le moment, quelque chose retenait les monstres.
Ils attendent d'être tous réunis pour une charge massive.
Des cris et des grognements retentirent dans le dos du militaire. Il pivota sur lui-même, mais dut s'accrocher au bras de Melten pour ne pas tomber. Là, il attendit que le monde veuille bien cesser de tourner. La douleur était impensable, comme les flammes qui montent des charbons d'une forge. Cette souffrance le dévorait de l'intérieur, mais bientôt, elle n'aurait plus grand-chose à se mettre sous la dent. Quand le monde se fut stabilisé, Talmanès vit d'où venaient les grognements. Alors que la place jouxtait le mur d'enceinte, les citadins et les soldats s'entendaient très loin. Rien de plus logique, car des trolloques y étaient perchés, formant comme une haie de vermine. Leurs armes brandies, ils invectivaient les résistants.
« Ils jettent leurs lances sur quiconque approche trop, » dit Melten. « Nous espérions atteindre le mur, puis le longer jusqu'à la porte, mais là, c'est impossible. Et tous les autres chemins sont bloqués. »
Aludra approcha de Gibbon et d'Enel.
« Les charges, »
dit-elle, moins doucement qu'elle l'aurait dû.
« Je peux les placer sous les dragons. En explosant, elles les détruiront. Mais elles blesseront aussi salement les gens. »
« Fais-le, » dit Gibbon d'une voix étouffée. « Ce que les trolloques infligeraient à ces malheureux serait pire, et nous ne pouvons pas laisser nos armes entre les mains de l'ennemi. C'est ce qu'attendent ces monstres. Leur chef espère qu'un assaut massif leur permettra de nous submerger et de s'emparer des dragons.
« Ils attaquent !»
lança un soldat posté près des dragons.
« Par la lumière, ils arrivent !»
Comme une coulée de vermine noire, les créatures des ténèbres se déversaient dans les rues. Une marée de dents, d'ongles, de griffes et d'yeux trop humains. Avides de tuer, les trolloques accouraient de toutes parts. Talmanès lutta pour inspirer à fond. Sur le mur d'enceinte, des cris excités retentirent.
« Nous sommes encerclés, » pensa Talmanès. « Acculés à la muraille et pris dans une nasse, nous, acculés à la muraille. »« Denel !»
beugla Talmanès pour couvrir le vacarme. Le capitaine des dragons se détourna de ses hommes, qui tenaient tous un allume-feu, attendant l'ordre de tirer. Talmanès prit une seconde inspiration qui mit le feu à ses poumons.
« Denel, tu m'as bien dit que tu pouvais abattre une fortification en quelques tirs. Et c'est la stricte vérité, et nous n'essayons pas d'entrer quelque part. »
Il s'interrompit, piteux.
« Par la lumière, » soupira intérieurement Talmanès. « Nous sommes si épuisés. » Nous aurions dû voir ce qui nous sautait aux yeux. « Escouade de Raiden ! Oui, vous, au milieu de la formation ! Tournez les dragons de 180 degrés ! Les autres, gardez votre position et tirez sur les trolloques qui attaquent ! Exécution, vite !»
Dans un concert de grincements de roues, Raiden et ses hommes se hâtèrent de faire pivoter leurs dragons. Les autres hommes martelèrent les rues qui débouchaient sur la place. Terrorisés par le boucan, les citadins crièrent en se couvrant les oreilles avec les mains. De fait, on eût juré que la fin du monde était proche. Quand les œufs des dragons explosèrent dans leurs rangs, des centaines de Trollocs tombèrent comme des quilles. Tandis qu'une fumée blanche montait de la gueule des cylindres de bronze, Raiden et ses gars finirent de mettre leurs dragons en batterie. Morts de peur, une bonne partie des citadins se jetèrent au sol, dégageant la ligne de tir. Alors que les autres armes continuaient à massacrer les attaquants, celles de Raiden se pointèrent toutes sur la même section du mur sur lequel grouillaient des monstres.
« Qu'on me donne un de ces fichus allume-feu !»
cria Talmanès en tendant la main. Un des servants obéit. S'écartant de Melten, en un tel moment il convenait de tenir debout seul, Talmanès approcha d'un dragon. Gibbon vint lui barrer le chemin. Aux oreilles bourdonnantes de Talmanès, sa voix parut presque inaudible.
« Ces murs sont debout depuis des centaines d'années. Ma pauvre ville. Ma pauvre, pauvre ville. »«
Ce n'est plus ta cité, mon ami, » fit Talmanès. « À présent, c'est la leur. »
Il brandit son allume-feu, un geste de défi au Trolloc perché sur le mur. Dans son dos, une capitale de légende brûlait.
« Oui, c'est la leur. »
Talmanès agita son allume-feu dans les airs, y laissant une traînée rouge. À son signal, tous les dragons de Raiden tirèrent. Alors que le mur explosait comme un château de cubes construit par un enfant quand on y floque un grand coup de pied, des Trollocs, des morceaux de Trollocs plutôt, volèrent dans les airs. Vacillant sur ses jambes, sa vue de plus en plus floue, Talmanès constata quand même que la muraille d'enceinte s'effondrait vers l'extérieur. Quand il s'écroula, juste avant de perdre connaissance, il eut le sentiment que la terre tremblait à cause de l'impact de son corps sur les pavés.